Donc je précise pour ceux qui nous visitent que une fois par mois, nous avons l'habitude de suivre un texte de A à Z. Et donc nous avons choisi pour cette année 2022-2023, d'année scolaire, l'épître de Paul aux Colossiens. Et donc nous avons déjà eu une introduction par Thibault il y a 2 mois. Le mois dernier, Olivier nous a présenté les versets 1 à 11 de cette lettre. Et là, donc, je vous présente la suite, les versets 12 à 23. Alors, je propose que nous procédions en 4 temps. D'abord, un temps de lecture, puis un temps de compréhension, un temps de réflexion, et pour terminer, un temps d'application. Alors, tout d'abord, nous allons lire le texte que nous avons devant nous. Je vous l'ai mis à l'écran, mais vous pouvez bien entendu le lire sur vos Bibles. C'est la traduction dite Nouvelle Traduction de Valence, à peine adaptée. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Lui, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car c'est en lui que tout a été créé, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, le visible et l'invisible, soit trône ou seigneurie ou pouvoir ou autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Et lui est avant tout, et tout subsiste par lui, et il est le chef du corps de l'Église. Lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en tout, il tienne, lui, la première place. Car en lui, toute la plénitude s'est plu à habiter, et par lui, a tout réconcilié avec lui-même, ayant fait la paix par le sang de sa croix, par lui, soit ce qui est sur la terre, soit ce qui est dans les cieux. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis quant à vos pensées, dans les mauvaises œuvres, il vous a toutefois maintenant réconciliés dans le corps de sa chair, par la mort, pour vous présenter saints, irréprochables et irrépréhensibles devant lui, si du moins vous demeurez dans la foi, fondés et fermes, sans vous laisser détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, évangile qui a été prêché dans toute la création sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu serviteur. Nous allons essayer maintenant de comprendre quelques éléments de ce passage, et tout d'abord, la première compréhension, quand nous avons comme cela un texte, pas forcément très long, puisque là nous sommes en face de 12 versets, mais c'est d'essayer déjà de voir comment ce texte est structuré. Et Paul, j'ai essayé de le montrer un petit peu dans la géographie des planches précédentes, eh bien, nous donne finalement un développement qui est assez clair, avec tout d'abord l'œuvre du Père, rendant grâce au Père qui, voilà, l'œuvre du Père dans les versets 12 à 14, et ensuite ce qui est une hymne au Fils créateur dans les versets 15 et 16, avec une transition, le Fils au-dessus de tout dans les versets 17, et puis la première ligne, premier vers, si je puis dire, du verset 18, et enfin le Fils rédempteur dans les versets 18b à 20, et enfin l'œuvre du Fils dans les versets 21 à 23. Donc, si je repars un peu en arrière, vous voyez ici la symétrie très impressionnante qu'il y a entre ces deux strophes, lui qui est, premier-né, dans les cieux et sur la terre, dans les cieux et sur la terre, et alors si on va plus dans le détail, en lui, par lui, pour lui, 3 prépositions grecques que nous retrouvons ici, en lui, par lui, et c'est la même ici qui est traduite par avec, mais qui est la même qu'ici pour lui. Et puis, avec cet élément de transition où il y a avant tout, tout subsiste par lui, et il est le chef du corps la suprématie de Jésus-Christ. Et puis donc, comme nous l'avions vu, après l'œuvre du Fils qui correspond à l'œuvre du Père. Donc voilà la structure du texte tel qu'il se présente devant nous. Et avant de rentrer un peu plus dans le détail, eh bien, nous pouvons nous interroger sur qu'est-ce que c'est que le christianisme. Est-ce que le christianisme s'est évangélisé? Oui, bien sûr, puisque Paul va en parler au début du chapitre 4. Est-ce que le christianisme s'est vivre en chrétien au travail? Oui, puisque Paul va en parler à la fin du chapitre 3. Est-ce que le christianisme s'est vivre en chrétien en famille? Oui, puisque Paul va en parler un petit peu avant dans le chapitre 3. Est-ce que c'est lire la Bible et chanter? Ah ben oui, il va dire que la parole du Christ habite en vous richement, et puis chanter, etc. Est-ce que c'est montrer de l'amour fraternel? Ah ben oui, puisque si je remonte, vous voyez, je prends l'épître à l'envers, hein, dans le chapitre 3, il est bien dit, entrailles de miséricorde, pardonnant les uns aux autres, donc tout ça, c'est très bien. Est-ce que c'est renoncer au péché? Ben là aussi, si je continue ma remontée de l'épître, au chapitre 3, il est dit « mortifiez vos membres », etc. Est-ce que c'est avoir une bonne doctrine? Si j'arrive au chapitre 2, il faut faire attention aux mauvaises philosophies, etc. J'aurais pu détailler davantage. Hein. Est-ce que c'est être un bon serviteur de Dieu? Ben oui, puisque Paul lui-même donne son exemple, etc. Donc tout ça, nous le trouvons et nous le trouverons dans le déroulé de l'épître successivement, plutôt dans ce sens-là, je vous l'ai présenté dans l'autre sens, l'épître à l'envers. Mais, oui, mais, parce qu'en fait, le christianisme, c'est d'abord et avant tout Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et c'est pour cela que Paul, avant de rentrer dans beaucoup de sujets qui lui importaient de traiter et qu'il estimait être important pour les Colossiens, va commencer par présenter qui est Jésus-Christ. Et ensuite, vont en découler tous ces points-là. Autrement dit, montrer de l'amour fraternel, renoncer au péché, vivre en chrétien au travail, être un bon serviteur, évangéliser, tout cela, ça ne pourra avoir sa source que à partir de la vision que nous aurons de Jésus-Christ et de sa centralité. Le christianisme, comme le nom l'indique, c'est Christ. C'est un isme, mais c'est Christ d'abord, c'est le christianisme. Et je crois que Thibaut, tu l'avais déjà relevé dans l'introduction, la place centrale que Jésus-Christ occupe dans cette lettre, et vous l'aurez remarqué d'ailleurs dans la lecture que nous venons de faire, les « en lui, 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 lui ». Combien de fois nous le trouvons? Je ne l'ai pas compté, j'aurais pu le faire, mais c'est assez impressionnant de voir comment Paul veut attirer notre regard, non pas vers une bonne doctrine, non pas vers un bon comportement, non pas vers un bon service, mais il veut d'abord et avant tout attirer nos cœurs vers lui, le connaître, pour le connaître lui. Et alors, c'est pour cela que dans ce texte, Paul va développer la grandeur de Jésus-Christ. Et donc, nous sommes en face d'une section qui est absolument extraordinaire. Et nous pouvons dire que dans la révélation que Dieu nous donne par l'Écriture dans le Nouveau Testament, nous avons trois textes qui se singularisent par leur accent christologique unique, la présentation de qui est Jésus-Christ. Et ces trois textes, nous les trouvons dans le prologue de l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 1 à 18. Nous les trouvons dans l'introduction de l'Épître aux Hébreux, le premier chapitre de cette lettre. Et nous le trouvons dans ce texte de Colossiens, à partir de la fin du verset 14 jusqu'au verset 20, ce texte que nous avons sous les yeux. Et ce sont trois sommets de la révélation sur Jésus-Christ. Alors bien entendu, vous savez, là je n'ai pas réussi à trouver trois photos du même sommet, mais vues de côtés différents, ce jour j'aurais aimé, mais je n'ai pas réussi. Mais c'est comme si, vous voyez, l'un vous présentait cette montée par ce chemin-là, l'autre par ce chemin-là, mais c'est en fait des chemins différents, mais qui mènent au même sommet, à la même personne, à la même grandeur de Jésus-Christ que trois auteurs différents, hein, puisqu'il s'agit de Jean, il s'agit de l'apôtre Paul et de l'auteur anonyme de l'Épître aux Hébreux. Ces trois auteurs, finalement, concourent avec leurs termes, avec leur style, avec leur vision aussi de Jésus-Christ, concourent de manière cohérente à nous présenter qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et alors, comment formuler cela? Je me mets à la place de Paul. Paul est en prison, il écrit une lettre aux Colossiens et il a envie de leur parler de Jésus-Christ. Alors, quand Paul, est-ce que c'était quelques semaines avant, est-ce que c'est quelques semaines après, a écrit aux Éphésiens, eh bien, Paul a pris sa plume et puis il a écrit la plus longue et la plus belle phrase qui ait jamais été écrite, Éphésiens 1, versets 3 à 14. Une longue, longue phrase, donc avec des qui, etc. Et là, j'imagine Paul qui suspend sa dictée ou son stylet, on ne sait pas, peut-être une dictée, pour dire non. Si je veux parler de Jésus-Christ, je ne peux pas prendre une longue phrase de 200 mots. Il faut que j'ai un autre style. Et alors, il va composer une hymne. Alors, les commentateurs s'étripent pour savoir est-ce qu'il a repris quelque chose qui existait ou est-ce qu'il a adapté, etc. Peu importe, nous l'avons tel qu'il est et nous avons à le prendre tel qu'il est. Mais en tout cas, ce qui ressort, et j'ai essayé de le faire ressortir aussi graphiquement dans la disposition des phrases tout à l'heure, c'est que en grec, c'est un texte poétique. Paul passe de la prose à la poésie pour présenter qui est Jésus-Christ. Parce qu'il estime que c'est un média qui est adapté pour nous faire comprendre, pour nous faire rentrer un peu plus vers qui est Jésus-Christ. Paul savait manier des styles très différents, hein, même si son style naturel, je pense, c'était quand même les grandes phrases. Mais là, il change et il va nous donner cet hymne avec des phrases très courtes qui se succèdent et qui nous présentent la grandeur de Jésus-Christ. Et alors, vous voyez, moi je me dis, quand nous voulons aussi nous rapprocher de Jésus-Christ, eh bien nous avons aussi des moyens poétiques pour le faire. Nous avons les cantiques. Les cantiques qui sont souvent avec des phrases courtes. Et moi, je dois vous dire que peut-être, on a des cantiques en alexandrin qui présentent, qui développent bien les choses. Mais ce n'est pas forcément ceux qui me touchent le plus. Et ce sont souvent ces cantiques avec des vers de 5 ou 7 syllabes qui, dans leur concision, eh bien, finalement, font mouche et vous touchent au cœur. Voilà. Et donc, utilisons aussi les cantiques, comme Paul nous en donne finalement, nous en trace le chemin au travers de l'hymne qu'il utilise ici pour nous rapprocher de Jésus-Christ et comprendre un peu qui il est. Et donc, ce que je vais faire dans les prochaines planches, c'est que je vais essayer de prendre plusieurs de ces expressions, pas toutes, mais quand même un certain nombre de ces hymnes, que j'ai essayé aussi d'illustrer, parce que certains d'entre nous sont oraux, d'autres sont plus visuels, et donc j'espère que pour ceux qui sont visuels, ça pourra aussi parler dans ce sens, et bien illustrer en donnant quelques éléments. Tout d'abord, la première... Paul commence en disant « Lui qui est l'image du Dieu invisible ». L'image du Dieu invisible. Ah, alors ça, bien entendu, ça devait faire tilt pour un bon nombre de ces Colossiens. Parce que l'image du Dieu invisible, ça nous rappelle Genèse 1, où Dieu, si vous avez cet extrait si célèbre du tableau du plafond de la chapelle Sixtine, où Dieu crée l'homme à son image. Mais il y a une énorme différence. C'est quoi l'énorme différence? C'est que Adam a été créé à l'image de Dieu. Tandis que Christ, le Fils, est l'image de Dieu. Et là, ça change tout. Alors, image, pour nous, c'est pas forcément très parlant, paradoxalement. Pourquoi? Parce que l'image, pour nous, c'est juste une photo, quoi. On est après Niepce et Daguerre, donc l'image, c'est la photo, donc c'est deux dimensions par rapport à quelqu'un qui est en trois dimensions. Tandis que dans la pensée grecque, dans la pensée de l'époque, c'était différent. Et je prends une citation d'un commentateur qui s'appelle David Garland, qui dit « Dans la philosophie grecque, l'image participe de la réalité qu'elle révèle, et elle est identifiée à cette réalité. » C'est-à-dire que pour nous, nous distancions la personne de l'image de la personne. Tandis que pour la pensée, la philosophie grecque, c'était le monde dans lequel baignaient les Colossiens, eh bien l'image était l'émanation de la réalité et donc n'était pas différente de la réalité. Ou pour le dire différemment, peut-être à aujourd'hui, l'image, elle était 3D aussi. Et l'image, elle n'était pas simplement immatérielle, elle était aussi matérielle. Donc, en Jésus-Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Que nous voyons Dieu, et quand il est dit qu'il est l'image du Dieu invisible, ça veut dire que le Dieu qu'on ne peut pas voir, nous le voyons, mais tel qu'il est réellement, tel qu'il est vraiment. C'est pas simplement un reflet de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et alors nous avons toutes ces affirmations, en particulier dans le prologue de l'évangile selon Jean, quand Jean dit « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils qui est dans le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. » Ou quand Jésus dit à Philippe, qui lui pose la question « Mais montre-nous le Père. » Eh bien, qu'est-ce qu'il dit ? Pas autre chose que « Mais... » Je suis depuis si longtemps avec toi, avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui avait vu Jésus avait vu le Père dans pleinement. Et Hébreux 1, verset 3, va nous dire que le Fils est l'empreinte de sa substance. Et l'empreinte, c'est pas... Nous, l'empreinte, on la voit en creux, tandis que là, l'empreinte, elle était finalement en solide. Et d'ailleurs, de façon très frappante, c'est que ce verset 15... Ce premier vers du verset 15 vient après les versets 12 à 14, dans lesquels vous aurez remarqué qu'il y a à la fois la lumière et l'amour. Nous avons part au lot des saints dans la lumière, et c'est le Fils de son amour. Donc ce que Dieu est dans sa nature profonde, lumière et amour, eh bien, effectivement, il nous l'a rendu visible, parce que sinon, c'était invisible pour nous. Deuxième expression, c'est le Fils créateur. Car c'est en lui que tout a été créé, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, le visible et l'invisible. J'insiste sur la préposition « en ». En lui que tout a été créé. C'est-à-dire que le Fils, c'est pas simplement que tout a été créé par lui, Paul va le dire dans un instant, et c'est vrai bien entendu, mais tout a été créé en lui. Le Christ est la sphère dans laquelle tout a été créé. Si on peut dire qu'il n'y a rien qui échappe à cette sphère de création et aussi d'autorité de Jésus-Christ. Et alors, bien entendu, cela nous fait penser à plusieurs séries de textes. C'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, bien entendu, Genèse 1 et 2. Et Genèse 1 et 2, qu'est-ce qu'il est dit ? Au commencement, Bereshit bara Elohim, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu, c'est Elohim, donc c'est ce pluriel. Alors, bien entendu, le juif du temps de Moïse, il y voyait un pur pluriel de majesté, et sans doute pas plus. Mais nous, avec la lumière que nous donne le Nouveau Testament, nous voyons dans ce pluriel peut-être autre chose qui était totalement voilée à l'époque, mais qui maintenant nous est révélée, ce Dieu en trois personnes dont le Fils va être l'agent créateur. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que dans Genèse 1, c'est chaque fois « et il dit, et cela fut, il dit ». Donc c'est la parole créatrice, cette parole que l'évangéliste Jean va justement assimiler à cette parole qui s'est fait chair à Jésus-Christ. Donc premier texte, Genèse 1 et 2. Deuxième texte, c'est la sagesse créatrice de Proverbe 8. J'étais en joie auprès de lui avant. Alors ce qui était qu'un attribut de Dieu plus ou moins personnifié sous la plume de Salomon, là aussi nous le relisons avec une vision, en disant que cette sagesse, finalement, ça va être cette sagesse personnifiée de Jésus-Christ qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu. Et la troisième série de textes, alors que celle-là, nous les connaissons un petit peu moins, c'est toute la littérature judaïque intertestamentaire qui avait fait aussi des emprunts à la philosophie grecque. Et c'est des livres, pour certains, ce sont des livres apocryphes, comme la Sagesse ou le Siracide. Pour d'autres, ce sont des livres qui n'ont même pas été conservés dans les livres deutérocanoniques, comme les écrits de Philon d'Alexandrie, mais qui aussi développent beaucoup ce thème de cette sagesse créatrice de Dieu qui est finalement presque de plus en plus personnifiée. Et là, on a bien ces philosophes qui tâtonnaient un petit peu jusqu'à ce que la pleine révélation nous soit donnée. Et donc, ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre, le visible et l'invisible, donc que ce soit l'infiniment grand, que ce soit l'infiniment petit, eh bien, tout a été créé par Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, on a un peu le vertige quand on voit le développement des sciences exponentielles, mais on peut dire qu'en fait, Jésus-Christ, il pourrait en remontrer à tous les prix Nobel qui se sont succédés depuis qu'ils ont été créés. Et quelle que soit la matière, que ce soit en chimie, en physique, la médaille Fields en maths, le prix Nobel de médecine, tout. Jésus-Christ ne sera jamais dépassé par aucune connaissance, aucune découverte que ce soit, puisque c'est en lui que tout a été créé. Vous voyez ? Il connaît tout et infiniment plus que ce que nous ne pourrons jamais découvrir. Vous voyez, on est sur une autre dimension. Parce que M. Russier, qui avait fait ce beau pupitre sur lequel je m'appuie là, eh bien, il maîtrisait le truc, il le connaissait, mais il était infiniment plus que le pupitre. Vous voyez ? Donc, parfois, si nous pouvons être submergés par la grandeur de la création, rappelons-nous qu'il y en a un qui a créé et qui est infiniment plus grand, et j'oserais dire même infiniment plus complexe, que la création qui pourtant nous paraît drôlement compliquée. Vous voyez ? Et donc, nous pouvons admirer ce Fils créateur. Et ce Fils créateur, ce n'est pas simplement qu'il a créé l'infiniment grand, l'infiniment petit, les choses visibles, les choses invisibles, des quarks jusqu'aux supernovas, mais c'est qu'il a aussi, c'est en lui que tout a été créé, soit trône, seigneurie, pouvoir ou autorité. Ah, alors là, c'est des énumérations qu'on trouve assez souvent sous la plume de l'apôtre Paul. Hein. Romains 8, ni ange, ni principauté. Éphésiens 1, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, domination. 1 Corinthiens 15, il aura aboli toute principauté, autorité, puissance. Et même Pierre dit, les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. C'est quoi toutes ces énumérations ? Pourquoi les auteurs du Nouveau Testament, Paul, Pierre, énumèrent tous ces noms un peu bizarres ? Qu'est-ce qu'ils ont en vue derrière ? Eh bien, là aussi, notre culture est un peu détachée du contexte de l'époque, parce qu'en fait, ça représentait des classes d'anges. Et c'est pour ça que Paul va, quelques lignes après, au chapitre 2, dire qu'il ne faut pas s'insérer dans le culte des anges. Parce que, il y avait des spécialistes du sujet, hein, et qui classifiaient ça de façon très précise, et pour qui c'était très important de savoir quels étaient les anges, etc. Et donc, il y avait toutes ces puissances spirituelles qui lui faisaient très peur aussi, qui étaient l'objet de recherches et de spéculations très fortes. Alors, des spéculations, certaines d'entre elles étaient sans doute creuses, mais d'autres étaient sans doute pertinentes. Pourquoi ? Parce que, par exemple, Daniel 10 nous dit que derrière la Perse, derrière Javan, la Grèce, eh bien, il y avait des puissances spirituelles. Et donc, ces puissances spirituelles, ces trônes, seigneuries, au pouvoir, autorité, quel que soit le nom qu'on leur donne, et nous n'avons pas à rentrer dans les hiérarchies, etc., mais elles existent encore aujourd'hui. Et derrière Poutine, derrière Erdogan, derrière... Il y a aussi des puissances spirituelles qui sont en jeu. Alors, vous voyez, il faut éviter de tomber dans un extrême ou dans l'autre, me semble-t-il. C'est-à-dire dire que finalement, ces puissances spirituelles, ça c'était de la mythologie du temps des Colossiens, peu nous chaud aujourd'hui, on est beaucoup plus cartésiens, et ça c'est de l'histoire ancienne. Pas forcément tant que ça, parce que je pense qu'il y a une influence. Et certains, du coup, renvoient cela au pouvoir, seigneurie, autorité, au trône terrestre, c'est-à-dire aux structures d'autorité qui sont dans le monde. Alors, ce n'est pas directement ce que Paul avait en vue, certainement, dans ce texte, puisqu'il fait allusion à un aspect plus spirituel qui existait à l'époque, mais ça ne veut pas dire non plus que ça n'existe pas aujourd'hui et que derrière, finalement, les structures d'autorité du monde, il y a aussi des structures d'autorité angélique mauvaise qui soient derrière. Pourquoi ? Parce que, comme le dit Jean, le monde entier gît dans le méchant. Et même Jésus dit le prince de ce monde. Donc, celui qui est derrière la scène, eh bien, finalement, derrière ses trônes, ses seigneuries, ses autorités, eh bien, c'est Jésus-Christ. Mais, et c'est ça c'est que c'est en lui que tout a été créé. Et que ce ne sont que des créatures. Ce ne sont que des créatures. D'accord ? Donc, nous ne sommes pas dans un monde dualiste où il y aurait un dieu du méchant et un dieu du bon qui serait à 50-50 à part égale. Pas du tout. Nous sommes par rapport à un monde où même les autorités spirituelles, si puissantes et si méchantes qu'elles puissent paraître au moins aux yeux de certains, eh bien, sont des créatures et elles sont en Jésus-Christ que tout a été créé. Et donc, vous voyez, ça faisait retomber le soufflet, j'espère, pour les Colossiens. Et il faudrait que ça le fasse retomber aussi pour nous, si nous avons peur un peu de cela. Parce que c'est en Jésus-Christ que tout... C'est le Fils créateur. Il est au-dessus de tout. Le Fils est central. Et alors là, plusieurs expressions parcourent cet hymne pour nous dire que le Fils, il est le premier-né de toute la création, que tout a été créé par lui et pour lui, que lui est avant tout, et afin qu'en tout, il tienne lui la première place. Et là, nous avons cette expression « premier-né » que nous retrouvons deux fois. Hein, « Premier-né de toute la création, premier-né d'entre les morts. » « Premier-né ». Alors nous, « premier-né », eh ben, c'est celui qui est né avant les autres. Vous êtes bien d'accord ? Véronique, c'est la première-née de sa famille. Moi, je suis le premier-né. On n'est que deux, mais il y a quand même une première-née quand même quand il n'y a que deux. Voilà. Et donc, nous, on est chronologique dans cette histoire. Or, en fait, dans la Bible, premier-né, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas chronologique. Dans la Bible, dans la pensée hébraïque et aussi dans le Nouveau Testament, eh bien, premier-né, c'est celui qui a le statut le plus important. Ce n'est pas forcément du tout celui qui est chronologiquement. Et puis, ce n'est pas forcément aussi celui qui est à parité avec les autres. Parce que nous, on est très égalitaires, hein, et le Code civil aussi. Hein, c'est donc, qui est le premier-né, mais on est tous, il n'y a plus de part spéciale pour le premier-né. Hein, pas de double héritage, etc., tout ça. Donc, on est très égalitaires par rapport à cet aspect de premier-né. Tandis que là aussi, dans la pensée d'autrefois, ce n'était pas du tout le cas. C'est-à-dire que le premier-né n'était pas forcément au même niveau, même, je dirais, presque de la même nature que les autres. Et du coup, on comprend que quand il est dit de Christ qu'il est le premier-né de toute la création, ce n'est pas du tout, comme le disent les témoins de Jéhovah, la preuve que, du coup, le Fils est inférieur à Jéhovah. Pas du tout. C'est que, étant celui qui crée, forcément, il en prend la tête. Et il est au-dessus de tout. Donc c'est ça ce que veut dire premier-né. C'est un statut et c'est une différenciation, c'est une première place, ce n'est pas une chronologie. Et donc le Fils est premier-né à la fois de la première création et de la nouvelle création. Et tout a été créé par lui et pour lui. Ah ça c'est très intéressant. C'est que tout a été créé pour Jésus-Christ. Donc tout a été créé en lui, dans la sphère de son autorité, tout a été créé par lui, le Fils est l'agent de la création, mais tout a été aussi créé pour lui. Parce que le Fils est aussi l'objet du plan de Dieu. Quand nous pensons au plan de Dieu, bien souvent, nous pouvons penser au plan de salut de l'humanité. Ben oui, parce qu'on aime bien se mettre au centre. Sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que si je... C'est quoi le centre du plan de Dieu ? Ben, je suis désolé de vous le dire, c'est ni vous ni moi. C'est Jésus-Christ. Et nous l'avons ça dans la lettre aux Éphésiens. Ce que... Le bon plaisir, le mystère de sa volonté selon son bon plaisir qu'il s'est proposé en lui-même pour l'administration de la plénitude des temps, savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ. C'est les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sur la terre. Donc le centre du plan de Dieu, c'est son Fils. C'est pour lui, pardon. C'est pour lui que tout a été créé. C'est pour lui, afin de réunir toutes choses en un dans le Christ. Et donc le Fils est vraiment central. Il est central dans les plans de Dieu. Et c'est normal que du coup, en tout, il tienne, lui, la première place. On avance. Encore une autre expression qui m'a touché, tout subsiste par lui. Alors là, nous n'avons pas de modèle déiste. Vous savez, les déistes, qu'est-ce qu'ils disaient ? Ils disaient, ben, Dieu a créé l'univers, et puis après, hop, il s'est retiré de l'univers, et puis il a laissé aller. Voilà. Non, c'est pas ça. Ni l'univers, ni les individus qui sont dans l'univers ne sont autosuffisants. Si le Fils ne faisait pas subsister les choses, tout s'écroulerait en un instant. Ou pour le dire d'une manière peut-être un peu plus scientifique, eh bien, si vous apprenez des constantes, là j'en ai mis, je ne sais pas combien il y en a 7 ici, en fait, je crois que j'ai lu quelque part qu'il y en avait 26 constantes physiques fondamentales. Les cours de physique sont beaucoup trop anciens pour que je puisse dire s'il y en a 26 ou pas, mais enfin, toujours est-il que vous apprenez des constantes en physique, hein, constante à la gravitation, etc., tout ça. Eh bien, toutes ces constantes, si elles sont constantes, pourquoi ? C'est parce qu'il y a ce verset qui est là. Voilà. Donc, quand vous serez dans votre cours de physique, vous pourrez vous dire, quand on vous parle d'une constante, ah ben oui, mais moi je sais pourquoi. Parce que tout subsiste par lui. Et si c'est constant, c'est parce que ça subsiste. Et si ça subsiste, ça subsiste par Jésus-Christ, ben oui. S'il n'y avait pas Jésus-Christ, ben on ne pourrait pas parler du nombre d'Avogadro. Voilà. Et puis tout s'écroulerait. Donc vous voyez comment le Jésus-Christ est du coup le principe unificateur de l'univers et tout subsiste par lui, donc par une personne. Ce n'est pas des constantes qui existent comme ça par hasard, etc. Et puis en plus les physiciens nous disent que si qu'il y a ce réglage fin de l'univers qui ferait que si même, je ne sais pas, n'importe laquelle, la constante de Planck n'était pas exactement 10 puissance moins 15, mais très très légèrement différente, ben, rien ne marcherait. Tout s'écroulerait. Et que entre les quatre forces fondamentales, vous savez, les forces électromagnétiques fortes, faibles, la gravitation, etc., puis la quatrième, j'ai oublié, eh bien, si ça ne jouerait pas, s'il y avait la moindre modification d'epsilon. Voilà. Eh bien oui, parce que tout subsiste par lui. Voilà. Et donc, vous voyez aussi, par rapport à la science, ça nous permet d'avoir une approche qui est à la fois admirative, parce que la science nous permet d'observer la magnifique œuvre du Fils créateur. Donc moi, je très bien la science, très très bien. Sauf que la science, attention, c'est, n'ayons pas la religion de la science. On l'a vu pendant la période du Covid, il y avait ce fameux code d'unité scientifique. Les pauvres, alors il fallait toujours faire ce que la science allait dire. Sauf que la science, moi j'ai entendu Arnaud Fontanet qui était au comité scientifique, il disait tous les matins qu'il se levait en se disant qu'est-ce que j'ai mal pris comme paramètre, qu'est-ce que j'ai pas compris, etc. Et cet homme était profondément honnête, j'ai beaucoup aimé ça. Et il était très conscient en tant que scientifique éminent des limites de la science. Ce que d'autres peut-être n'étaient pas forcément autant. Voilà. Donc, la science s'arrête facilement, mais tout subsiste par lui. C'est fantastique, n'est-ce pas? Alors, une autre expression de Paul dans ses cantiques, c'est le Fils qui est le chef du corps de l'Église. Ah, le chef! Alors, on a beaucoup discuté sur chef, en particulier par rapport, vous savez, le mari, il est le chef de la femme. Alors, mais bon, il se trouve quand même que quand on prend le grec, ça peut dire à la fois autorité ou source. Et là, il me semble bien que c'est, dans cette expression, nonobstant les discussions sans fin qui existent sur 1 Corinthiens 11, eh bien que l'Église n'existe pas s'il n'y a pas le chef du corps qui est l'Église. Pourquoi ? Parce que déjà, s'il n'y a pas une tête, ben, vous coupez la tête à un canard, il continue à marcher, mais ça s'arrête rapidement. Donc, s'il n'y a pas la tête qui est là pour donner à la fois l'impulsion, la direction, les directives, etc., eh bien, ça ne marche pas. Donc, Jésus-Christ est bien la source de la vie de l'Église, il est aussi l'autorité dont dépend aussi toute l'Église. Mais il est intéressant de voir qu'il est le chef du corps de l'Église. Oui, parce que nous sommes de ceux qui tiennent le christianisme. Et pas l'églésiasanisme, je ne sais pas comment vous voulez dire. Voilà. Donc, ce qui est important dans notre foi, ce n'est pas l'Église, c'est important à sa place, mais ce n'est pas central. L'Église n'est pas centrale, désolé, c'est lui, parce qu'il est le chef de l'Église. Donc, l'Église n'existe pas pour satisfaire les besoins de ses membres, ni pour assurer sa survie institutionnelle en tant qu'Église, voilà, comme ça, ou assemblée, comme vous voudrez, mais pour l'Église existe pour remplir les desseins rédempteurs en Jésus-Christ qui en est la tête, qui en est le chef. Et en plus, aujourd'hui, il est le chef du corps de l'Église. L'Église, c'est la sphère dans laquelle l'autorité de Jésus-Christ, le gouvernement de Jésus-Christ, s'exerce aujourd'hui. Il est chef de toute chose en tant que créateur, mais aujourd'hui, la sphère sur laquelle il a l'autorité directe, ben, c'est pas la République française ni le royaume anglais, c'est l'Église. Expression d'après, le Fils ressuscité. Lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Alors là aussi, nous retrouvons une autre expression. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Qu'est-ce à dire que Jésus est le premier-né d'entre les morts ? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu déjà des résurrections ? Oh, ben, si, Élie, Élisée, ils avaient ressuscité des gens, même Jésus en a ressuscité 3. Mais en fait, c'était quoi ces résurrections ? C'était des rappels à la vie existante. Ben, Lazare, à un moment, il est retourné au tombeau, puis il n'en est plus ressorti. Enfin, il en ressortira un jour, à la résurrection, mais il n'est pas encore ressorti une deuxième fois. Voilà. Donc en fait, celui qui vit d'une vie impérissable, le seul, aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Alors, un jour, j'ai écrit ça, et puis quelqu'un à qui j'avais envoyé pour corriger, il m'a dit, oui, mais tu oublies Enoch et Élie qui sont montés au ciel. Alors, oui, c'est vrai, mais je pense quand même que la nature de la vie de Jésus-Christ ressuscité est, d'une manière, est un peu unique. Alors, c'est vrai qu'il y a eu Enoch, Dieu l'a pris, d'une certaine manière, Élie aussi, mais il est quand même, lui, le commencement, le premier-né d'entre les morts. Et là, il me semble qu'on a à la fois la primauté et la chronologie. Et vous remarquerez d'ailleurs que dans l'évangile selon Matthieu, quand il est dit que les sépulcres s'ouvrirent, les morts sortirent, mais après que Jésus a été ressuscité d'entre les morts. Fin de Matthieu 27, épisode très mystérieux au demeurant. Et donc, il est bien le premier né d'entre les morts. Et c'est frappant de voir que, en fait, la vie de Jésus-Christ ressuscité, dans son corps d'homme ressuscité, elle est unique. Elle est unique aujourd'hui. Et un jour, il transformera par son pouvoir nos corps dans la ressemblance du corps de sa résurrection. Et nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais celui qui est apparu au bord du lac, là, vous savez, quand les disciples, cet épisode qu'on lit ici, tellement, tellement souvent ici, quand les disciples avaient de la peine à pêcher, eh bien, celui-là, c'est le Seigneur. Oui, c'était quelqu'un qui était autre. Bien sûr, c'était le même, mais il avait cette vie impérissable. Et c'est pour ça qu'il est dit, Christ ne meurt plus, dans un texte. Parce qu'il est le premier-né d'entre les morts. Et il prend cette place-là dans la nouvelle création. Le Fils incarné, alors nous avons aussi dans la suite cette expression, car en lui toute la plénitude s'est plus habitée. Alors là aussi, quand quelqu'un qui avait un arrière-plan juif, un prosélyte, éventuellement, écoutait la lecture de l'Épître aux Colossiens et que nous arrivions à ce vers, car en lui toute la plénitude s'est plus habitée. Habiter, ah oui, ça faisait tilt. Pourquoi ? Parce qu'habiter, eh bien, c'était le tabernacle, c'était le temple qui était l'habitation de Dieu. Mais que Jean dit-il dans son introduction ? Eh bien, la parole devint chair et habita au milieu de nous. Et donc, l'habitation de Dieu en Jésus-Christ, elle est infiniment plus grande que la gloire que Dieu a pu montrer dans le tabernacle, Exode 40, ou dans le temple, 1 Roi chapitre 8. Elle est infiniment grande parce que c'est toute la plénitude qui s'est plus habitée. Et donc cette plénitude, c'est une métaphore pour Dieu. Et cette plénitude, ce plérôme, donc cette aspiration qui, je crois, est inscrite dans le cœur de chacun des hommes et des femmes à avoir cette plénitude en eux et pas ce manque. Donc cette aspiration que les Colossiens essayaient sans doute de satisfaire au moins en partie par la philosophie, eh bien cette plénitude, eh bien, elle se trouve en Jésus-Christ. Toute la plénitude s'est plus habitée. Et donc, le Père était, Dieu était en Christ. Le Père, moi et le Père, nous sommes un. Et comme le dit l'évangéliste, l'Esprit était sans mesure sur Jésus-Christ. Donc, toute la plénitude, tout Dieu est en Jésus, on pourrait dire. Et alors, elle ne s'est plus habitée. Qu'est-ce que ça veut dire que toute la plénitude ne s'est plus habitée ? Ça veut dire que l'habitation de Dieu s'est faite dans un homme, en lui. C'est qui en lui ? Ben, c'est celui qui est le Fils qui s'est incarné. Et donc, ça veut dire que du moment que Dieu, toute la plénitude s'est incarnée, ça valide aussi la création, vous voyez ? Et là aussi, ça tord le cou à toutes les idées que la création est mauvaise, qu'il faut... Alors, il y a eu plein d'hérésies après, hein, sur ce sujet, qu'il fallait laisser tomber la création physique, c'est que les questions d'esprit qui étaient importantes, etc. Pas du tout, puisque la plénitude de Dieu, c'est plus... Donc, il y a eu ce plaisir de la divinité dans son être et dans ses attributs d'habiter dans le corps de Jésus-Christ, donc d'un homme. Donc, si la matière était fondamentalement mauvaise, eh bien, ça n'aurait jamais pu advenir. Donc, c'est bien que, par cette expression-là, Paul manifeste le fait que, en s'incarnant, Jésus démontre que la création physique est bonne. Et puis, et je termine par cette partie-là, le Fils rédempteur, ayant fait la paix par le sang de sa croix. Alors, ça aussi, c'est un point important. C'est que Paul, comme plusieurs fois dans ses épîtres, comme d'autres auteurs, nous ramène aux faits historiques de notre foi. Les faits historiques de notre foi, c'est Jésus-Christ est mort sur la croix et il est ressuscité. Donc le christianisme, ce n'est pas une religion à mythe, ce n'est pas une religion à mystère, comme là aussi elles abondaient dans l'Asie mineure antique. Elle est basée sur des faits. Il a fait la paix par le sang de sa croix. Et alors, ça paraît presque redondant, le sang de sa croix. Pourquoi Paul dit-il ça ? Le sang de sa croix. Le sang, eh bien là aussi, il y a toute la richesse de ce que le sang voulait dire dans l'ancienne alliance, dans ce sang qui était le résultat d'une mort violente. Le sang était versé pour qu'il y ait une victime sacrificielle qui puisse apporter la paix, ayant fait la paix par le sang de sa croix. le rapprochement entre sang et paix fait bien entendu penser à Lévitique 3 et au sacrifice de paix par lequel il pouvait y avoir cette communion. Alors, on ne va pas relire Lévitique 3, rassurez-vous, hein, mais juste j'ai fait allusion. Et la croix, par le sang de sa croix, cette mort honteuse, le sang de sa croix, c'est cette idée de la croix comme mort vraiment ignominieuse, comme on dit, hein, mort honteuse par-dessus tout. Et donc, c'est le Créateur, le Fils Rédempteur, eh bien, il prend la dernière place et il meurt par le sang de sa croix. Et enfin, la dernière expression que nous trouvons dans le Cantique, c'est le Fils Réconciliateur, puisqu'il est dit que par lui, il a tout réconcilié avec elle-même ou lui-même, on peut traduire des deux façons, par lui, soit ce qui est sur la terre, soit ce qui est dans les cieux, et j'y reviendrai dans le temps suivant, qui est le temps de la réflexion. Alors, je vous propose quatre réflexions successives dans ce temps de réflexion. Donc là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'allons pas reprendre les expressions les unes à la suite des autres. Nous allons prendre un peu de recul, essayer de voir quels sont les éléments que nous apporte ce texte sur notre compréhension de quatre sujets. Le premier sujet, c'est la double nature de Jésus-Christ. Et il me semble que ce texte, de façon assez remarquable, nous présente Jésus-Christ vrai Dieu, il est l'image de Dieu, en lui toute la plénitude s'est plus habitée, et vrai homme, il est le premier-né d'entre les morts, donc ça veut bien dire qu'il est homme et qu'il est même mort, puisqu'il est le premier d'entre les morts, et puis il est question aussi du corps de sa chair, donc la chair de Jésus-Christ, le corps de sa chair, de façon à bien montrer la réalité de la substance, que Jésus-Christ n'est pas simplement un esprit qui serait venu sur la terre. Et ce qui est très frappant, en tout cas ça m'a frappé, c'est que dans cet hymne, Paul ne va pas faire, ne va pas développer une réflexion théorique. Elle viendra plus tard. Cette réflexion, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, je crois en Jésus-Christ, né de la Vierge Marie, etc. Le symbole des apôtres, ou Nicée, et puis tous les conciles successifs qui ont formulé de façon, je dirais, un peu théorique, mais aussi... prépositionnel, quelle est la double nature de Jésus-Christ. Mais là, on voit que pour Paul, finalement, c'était de l'implicite évident. Voilà. Ben oui, Jésus était à la fois Dieu et à la fois homme. Et donc, c'était le même être qui crée glorieusement et qui sauve ignominieusement. Et donc, on comprend pourquoi la poésie est utile pour lier ces deux aspects. Parce qu'il y a ce mystère quand même. Comment Jésus-Christ peut-il être à la fois 100% Dieu et 100% homme ? 2 fois 100%, ça fait 200%, ça ne marche pas, mais si, ça marche. Et donc, on a besoin peut-être d'une manière de communiquer, et c'est pour cela que Paul utilise la poésie. Et puis, ce qui me frappe aussi, c'est que dans ce texte de Colossiens 1, Paul applique à Jésus-Christ, comme fils, des titres et des actions qui sont attribués à Dieu dans l'Ancien Testament. C'est Dieu qui crée dans l'Ancien Testament. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Il dit, mais finalement, c'est valable pour le Fils, de toute façon, tout à fait exactement au même niveau. Pour autant, il ne va pas être modaliste. Modaliste, vous savez, c'est que Dieu s'est révélé d'abord comme Dieu le Père dans l'Ancien Testament, puis ensuite, quand le Fils est incarné comme Fils, etc. Ah non, pas du tout. Puisque quand il dit que la plénitude ne s'est plus habitée, eh bien, c'est parce que toute la plénitude est en Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ... ce n'est pas parce qu'il y avait Jésus-Christ sur la terre qu'il n'y avait pas Dieu au ciel. Et ce qui frappe aussi, c'est le corps de sa chair, c'est cette insistance sur la croix, sur le sang, et qui nous montre aussi l'humilité de l'incarnation. Parce que si Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, en tant que vrai homme, eh bien, du coup, il se rend proche de nous. Le corps de sa chair, vous voyez ? Parce que parfois, nous souffrons corporellement dans notre chair. Eh bien oui, Jésus-Christ aussi. En tant que vrai homme, il y avait le corps de sa chair. Et puis, il y a eu le sang de sa croix. Voyez ? Et cette humilité de l'incarnation et de la mort du Fils rend la divinité et celui qui est le créateur de toutes choses, finalement, si proche de chacun de nous, si proche du plus petit, si proche du plus souffrant. Donc, la double nature de Jésus-Christ ressort de façon extraordinaire de ces versets. Les deux créations aussi ressortent de façon extraordinaire de ces deux versets. L'ancienne création... qui est créée donc dans, en et pour le Fils, qui est soumise à la souveraineté du Fils, mais implicitement liée à la mort. Moi, j'étais très content de trouver cette photo d'un beau jardin, sauf que qu'est-ce qu'il y a ? Quelques tombes. Ben oui. La création est à la fois magnifique, mais marquée par la mort. Et donc, il est nécessaire que celui qui était premier-né dans la première création recrée, efface cette nouvelle création qui était nécessaire en raison du péché, en raison de cette mort, de cette rébellion. Et cette nouvelle création qui est liée à la résurrection et qui est le but ultime du plan de Dieu. La première création est importante puisque c'est un moyen pour nous de connaître, même si c'est indirectement, même si c'est partiellement Dieu. Romains 1 nous dit, que vous savez que ce que la sagesse de Dieu, sa puissance peuvent se reconnaître dans la première création, mais ce n'est pas toute la plénitude dans la première création. La première création, elle est un reflet du Fils, mais c'est tout. Et la première création, elle ne mettra pas en relation personnelle comme la nouvelle création nous met en relation avec ce Fils ressuscité. Donc en fait, l'intention ultime de Dieu ne se comprend qu'à travers la mort rédemptrice de Jésus-Christ qui est, à partir de sa résurrection, la source de la nouvelle création. Et c'est pour cela que même quand le Fils crée l'ancienne création, la nouvelle création est déjà en arrière-plan, puisque le Fils a été, l'agneau a été préconnu avant la fondation du monde. Donc c'est pas comme si Dieu disait, il y a l'ancienne création, zut, ça n'a pas marché, je vais faire une nouvelle création. Non, déjà Dieu avait en vue ce plan, dans son plan rédempteur extraordinaire, c'est les bénédictions qui finalement seraient l'apanage de ceux qui rentrent dans cette nouvelle création. De sorte que la mort et la résurrection de Jésus-Christ n'ont pas simplement ratifié la chute, mais ils ont créé dans l'humanité l'image que Dieu avait toujours en vue, dont Jésus-Christ est le premier-né, et c'est pour cela que dans cette nouvelle création, il en est non seulement l'auteur, mais aussi celui qui en prend la tête, puisque ceux qui sont dans la nouvelle création sont associés à Jésus-Christ, celui qui en est le premier-né. Donc, double nature de Jésus-Christ, double création, double réconciliation aussi. Et dans ce texte, nous avons vu la réconciliation des choses, par lui a tout réconcilié avec lui-même, tout, soit ce qui est dans les terres, soit ce qui est dans les cieux, et puis la réconciliation des personnes. Alors ça, c'est intéressant. C'est que la chute, dans l'univers créé, a créé le bazar. D'accord ? Et en fait, la réconciliation que Jésus-Christ va opérer, eh bien, elle va rétablir l'univers et elle va tout remettre en ordre. Alors, selon des modalités qui nous restent bien mystérieuses, mais dans cette nouvelle création, nouveaux cieux, nouvelle terre, eh bien, les choses seront en ordre et définitivement. Donc, il y a bien cette réconciliation des choses qui est d'ores et déjà acquise du fait de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, mais que nous ne voyons pas encore. Aujourd'hui encore, la création, la première cette fois-ci, continue de souffrir parce que elle est assujettie à la servitude. Mais ce n'est pas tout qu'il y ait réconciliation des choses, il y a aussi réconciliation des personnes. Et c'est pour cela que Paul dit « Il vous a maintenant réconcilié dans le corps de sa chair pour vous présenter saint et etc. » Donc la réconciliation des personnes, elle est déjà acquise et elle est parfaite puisqu'on est présenté saint, irréprochable et irrépréhensible, mais elle n'est pas pour tous, elle est limitée. Il vous a réconcilié. Ah ben oui, c'est-à-dire que finalement, on ne sera pas tous réconciliés. Tous seront soumis à l'autorité de Jésus-Christ, même les êtres infernaux. Et par contre, les êtres infernaux ne seront pas réconciliés avec Dieu, ils seront réconciliés dans la seule mesure où ils seront obligés de s'y soumettre. Et cela pour l'éternité, y compris dans les temps de feu. C'est pas le diable qui domine les temps de feu, c'est Jésus-Christ. Je suis désolé. Et donc, c'est important de voir que tout sera mis en ordre. Et donc, nous qui sommes ambassadeurs de cette réconciliation, comme le dit Paul en 2 Corinthiens 5, eh bien, nous sommes ambassadeurs en admirant et en prenant soin de la réconciliation, parce que même si nous savons que cette réconciliation, elle n'est pas complètement opérée aujourd'hui, quand on s'occupe bien de la première création, on participe de façon prophétique à cette réconciliation des choses. Et quand on annonce l'Évangile, on participe activement à la réconciliation des personnes. Et puis, deux positions. Et alors ça aussi, c'est très frappant, c'est du Paul dans le texte. « Autrefois, vous étiez soumis au pouvoir des ténèbres, étrangers, ennemis, dans vos pensées, dans vos œuvres. » Alors ça aussi, c'est très intéressant. Paul insiste souvent sur ce lien entre les pensées et les œuvres. Mais maintenant, alors maintenant, vous êtes dans l'Église, vous êtes présenté comme parfait, et cela par l'œuvre exclusive du Fils. Et quand vous lisez les versets 21 et 22, et vous êtes, c'est frappant, il vous a réconcilié pour vous présenter saint, irréprochable, irrépréhensible. Ça, c'est l'action de Dieu. Ce n'est pas notre action.
C'est l'action de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a fait cela.
Ce n'est pas nos efforts qui vont nous permettre de passer du côté noir au côté de la lumière, qui nous permet de partir du pouvoir des ténèbres pour aller dans le royaume de la lumière. Et alors, pour terminer, je vous propose des applications. J'en propose trois. La première, c'est être tranquille. Aujourd'hui, il y a du stress, en particulier chez les plus jeunes. Quand il y a des remises de diplômes dans les écoles d'ingénieurs, actuellement, il y a des grands discours pour dire « attention, c'est la catastrophe, etc. On ne veut plus travailler ici, on ne veut plus travailler là, etc. » Ben oui, les feux, le changement climatique qui est terrible, et puis il y a Poutine qui a le plus gros armement nucléaire à sa disposition. Ben oui, effectivement, on pourra avoir peur. Sauf que, en lui, par lui, pour lui, Jésus-Christ est en compte. Et le meilleur message que nous puissions prêcher, eh bien, ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas faire d'efforts pour lutter contre le changement climatique, bien sûr qu'il faut en faire. Ce n'est pas qu'il ne faut pas faire d'efforts pour lutter pour la paix, bien sûr qu'il faut œuvrer pour la paix. Mais, même si il y a des combats qu'il vaut la peine de mener, eh bien, ils sont menés avec cette idée, avec cette tranquillité que rien n'échappe à Jésus-Christ. Quand j'étais dans les camps, je ne sais pas si on les chante encore dans les camps, il tient le monde entier dans ses mains. Vous connaissez peut-être ce petit cantique, voilà. Ben oui, voilà. Et donc, s'il tient dans ses mains, ben voilà, c'est les mains de celui qui a tout créé. Oh là là, donc on est tranquille. Et on a aussi besoin de tenir ferme. Alors là, vous avez ici cet arbre qui est un peu dans la tempête, là. Pourquoi ? Parce que, on a la fin de mon texte. Alors, j'ai un peu passé dessus comme chasseur braise, mais si du moins vous demeurez dans la foi, fondez et ferme sans vous laisser détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Ah oui, si du moins. Alors ça, on n'aime pas trop, les si du moins. Qu'est-ce que ça veut dire ? On introduit un doute subtil ou un doute sévère ? Et pourtant, tu n'as pas dit, Joël, à un instant, que c'est Jésus-Christ qui avait tout fait, qui avait tout réconcilié, etc. Ben oui, nous étions ennemis parce que nous étions constitués ennemis. Ce n'était pas Dieu qui était notre ennemi, c'est nous qui étions devenus le sien. Et c'est lui qui nous a réconciliés. Et cette réconciliation... Mais nous avons besoin de demeurer dans la foi, si du moins. Voilà. Donc il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Et c'est vrai que s'il y a cette souveraineté de Dieu, il y a aussi le fait que Dieu nous demande aussi à l'homme des choses. Et la parole de Dieu est toujours parfaitement équilibrée. Et ça ne pose qu'un problème à notre apôtre Paul de mettre dans la même phrase une certitude absolue. Il nous a réconciliés pour vous présenter saints, irréprochables et irrépréhensibles devant lui. Voilà. On est présenté comme ça là devant Dieu, dès aujourd'hui et pour l'éternité. Et d'enchaîner, dans la même phrase, si du moins vous demeurez dans la foi fondée et ferme, puisque la façon de demeurer dans la foi fondée et ferme, c'est justement d'écouter cet avertissement que Paul nous donne. Et de demeurer, alors demeurer, ça nous rappelle Jean 15, demeurer dans les sarments qui demeurent dans le cep, etc., demeurer dans la foi, donc la relation avec Jésus-Christ que nous avons à entretenir, fondée et ferme, parce qu'il y a parfois aussi des secousses dans la vie, et l'espérance de l'Évangile. J'ai beaucoup aimé réfléchir un petit peu sur cette expression, pourquoi ? Parce que nous, on aimerait que l'Évangile, il transforme tout de A à Z instantanément. Mais non, il y a une espérance. C'est sûr qu'on est saint, irréprochable, irrépréhensible devant Dieu, mais ça prend du temps pour que ce qui est cet évangile déjà reçu nous transforme et Paul nous ouvre une espérance. Et donc, ne nous laissons pas détourner. Et ça annonce ce que Paul va annoncer dans la suite, des déceptions, des philosophies, des idées du monde qui peuvent nous détourner de la foi. Et puis, rendant grâce au Père. Ah oui, ça c'est mon troisième point, rendant grâce au Père. Donc, vous voyez, là, je suis parti sur la fin du texte. Là, je reviens au début. Rendant grâce au Père. Et alors, je me suis dit, je vais mettre une image avec des gens qui lèvent les mains pour rendre grâce au Père. Non, j'ai mis les mains d'Albrecht Dürer pour de prier. Parce que nous, quand on prie, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on rend grâce au Père ? Non, on demande. On demande. Je veux ça, Seigneur. J'ai besoin de ça. Et puis, etc. Tandis que Paul dit, non, rendez grâce au Père. Pour l'héritage qui nous a rendus capables de participer à l'héritage des saints. Rendez grâce au Père. Nous, on demande, Seigneur Jésus, je veux ceci. Vous voyez, ce n'est pas Seigneur Jésus, c'est le Père. Et ce n'est pas je veux ceci, c'est rendez grâce au Père pour l'héritage. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Exprimer notre reconnaissance, notre admiration. On attend quelque chose de fantastique, l'héritage des saints dans la lumière. C'est ce qui est devant nous. Et puis pour la délivrance, qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Alors, quand j'ai cherché une image là, j'ai cherché « Pouvoir des ténèbres », vous savez, sur Google Images, je suis tombé sur plein de titres de bouquins écrits par des Africains. Parce qu'apparemment, eux, les pouvoirs des ténèbres, c'est quelque chose qui les marque. Nous, le pouvoir des ténèbres, il est loin. Ben oui, mais Jésus-Christ nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. C'est un pouvoir réel, mais qui ne doit plus nous faire peur, puisque nous avons été délivrés. Donc, nous rendons grâce au Père. Et puis, pour la position, nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et donc, nous rendons grâce au Père. Et puis, pour le pardon, puisque nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et donc, nous rendons grâce au Père. Ne soyons pas blasés par le pardon et la rémission dont il nous a gratifiés. Et donc, pour terminer, comme une prière, je vous propose que nous nous levions et que nous chantions ce texte. Vous savez à quel point j'aime beaucoup que nous chantions les textes. Donc, le 144 des hymnes et cantiques, où Maurice-Jean Quéclin a mis finalement un peu notre texte en musique.